Bonjour à tout le monde, tous ceux que j'ai pas pu encore voir. Et c'est vraiment une joie qu'on puisse se retrouver ici, voir la salle remplie aussi, voir des frères et sœurs prêts à prier ensemble et prêts aussi à être enseignés. Je vous avoue que ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé ici, enfin en tout cas pas en tant que meneur de louange ou pas en tant que président. Mais c'est une grâce aussi que j'ai de pouvoir vous partager aujourd'hui ce que Dieu nous a mis sur le cœur. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, on veut te rendre gloire, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés en ce matin. Merci encore pour ta présence. Oui, Hosanna, Alléluia, gloire à toi, toi le Dieu qui sauve, toi le Dieu qui nous rassemble aujourd'hui. Nous venons devant toi humblement parce que nous avons besoin de toi, de ta parole, de ta présence. Et merci encore pour ce week-end d'église que tu nous donnes pour qu'on puisse vivre ensemble, expérimenter ensemble la puissance de la prière, Seigneur. Parle-nous à travers ce partage aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous à travers ta parole et guide nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être une assemblée, une église qui invoque ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, avant, pour commencer le message, je m'étais posé une question. Je m'étais dit... Comment rendre le message et l'introduction un peu plus punchy? Parce que c'est le matin et les gens ont besoin un peu d'être réveillés. Et comme vous le savez, le thème de ce week-end de rentrée, c'est... D'accord. C'est quoi? Une église qui prie, exactement. Une église qui prie. Alors je me suis dit, une image parle mieux que 1000 mots. Et j'ai tapé la prière sur Google, et voilà les images que j'ai eues. Donc je pense que c'est assez représentatif peut-être de l'image qu'on a. Voilà des gens qui joignent leurs mains avec la Bible qui prient. Et je me suis dit ouais, mais une église qui prie, je crois peut-être que je vois plus que des choses individuelles. Alors je me suis dit bon, je vais changer le mot dans Google, je vais mettre une prière collective. Bon, j'ai eu ça. J'ai fait bon, mince, c'est pas exactement l'image que je voulais avoir. Et je pense que c'est assez représentatif et ça reflète un petit peu l'image qu'on a. On a l'image de prière peut-être comme quelque chose d'individuel. Le problème, c'est que Google nous met une prière collective un peu plus de ce point de vue-là, d'un autre point de vue. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier, enfin, ce que je vais vous partager. En ce matin, c'est de la prière en tant qu'église. Et c'est vrai que comme on peut le voir via Google, pas forcément représentatif en tant que prière chrétienne. Et ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Clément aussi, c'est comment est-ce que, en tant qu'église, on peut prier ensemble. Comment est-ce que Dieu, à travers Jésus-Christ, peut nous enseigner à prier ensemble. En ce matin, je vais vous partager un peu plus à travers la prière du Notre Père. Donc c'est un peu un modèle de prière que tout le monde connaît. Je pense que c'est la prière que tout le monde a appris depuis qu'on est jeune, enfin en tout cas que tous les jeunes chrétiens ont appris. Mais nous allons voir comment est-ce que cette prière peut nous guider, comment est-ce que cette prière peut nous façonner également dans notre vie de tous les jours et dans notre vie d'église. Donc petite promotion pour le livre sur lequel beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui vont être inspirées. Donc ça fait partie de l'éditeur donc Nine Marks, qui ont sorti une série sur bâtir des églises en bonne santé. Donc nous avons fait le week-end de fin d'année de l'année dernière via une de ces éditions. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser plus à la prière. Comment est-ce que nous pouvons prier ensemble? Avant de commencer, je vais vous lire le texte qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, se trouve dans Matthieu, vous le connaissez tous, chapitre 6, versets 9 à 13. Vous pouvez suivre sur vos Bibles ou sur PowerPoint. Donc Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir à travers cette prière, entre guillemets, basique, mais pas simple, cette prière élémentaire, mais pas simple, comment est-ce que cette prière et ce modèle de prière de Jésus-Christ peut nous enseigner. Nous allons voir dans un premier temps que cette prière du Notre Père est un appel à notre Père qui est rassurant et tout-puissant. Nous allons voir aussi que c'est de notre part un désir pour sa présence et sa providence. Et toutes ces choses-là vont nous demander à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Donc dans la première partie que nous allons voir, un appel donc à notre Père rassurant et tout-puissant. Le premier mot que nous avons dans, dans la prière, c'est « notre ». Pour resituer un peu le contexte de la prière du Notre Père, donc Matthieu 5 à 7, nous sommes dans le Sermon sur la montagne, donc un discours très connu de tous, de Jésus-Christ, où il enseigne à la foule, où il proclame l'Évangile, où il annonce aussi le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que la Nouvelle Alliance s'accomplit à travers Jésus-Christ? Et dans une grande majorité du Sermon sur la montagne, il utilise le pronom singulier « je »,« tu » ou « il ». Seulement au moment de la prière du Notre Père, il utilise le mot « nous ». Et à ce moment-là, Jésus-Christ introduit vraiment cette notion de collectivité, cette notion d'assemblée, cette notion d'ensemble. De la même manière, quand Jésus-Christ prie dans le jardin de Gethsémané dans Marc chapitre 14, il prie à Dieu, vous savez, quand les disciples s'endorment, entre guillemets, et que Jésus leur demande de prier avec, il dit « Abba, Père, toi le Dieu Tout-Puissant, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. » Là encore, il utilise le pronom singulier. Mais à ce moment-là, quand il enseigne les disciples, et quand il enseigne la foule à prier, il utilise le mot « nous », le pronom « nous ». Et ce pronom-là, c'est pour nous rappeler, en tant que chrétiens aussi, que lorsque nous prions et lorsque nous appliquons en fait ce modèle de prière, nous ne sommes pas juste là à venir personnellement, mais nous venons aussi en tant que famille, nous venons aussi en tant que frères et sœurs, nous venons aussi en tant que communauté. Lorsque nous présentons devant Dieu, rappelons-nous que c'est non pas juste mon Dieu, mais c'est également notre Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes également frères et sœurs. Nous avons cette capacité aussi à pouvoir prier ensemble pour invoquer le nom de notre Seigneur. Dieu a à cœur qu'il puisse, que son assemblée et son église puissent invoquer son nom ensemble. Donc le nôtre, ici, fait vraiment notion de, quand nous rentrons dans la prière, nous pouvons aussi rentrer, et Dieu nous invite, Jésus-Christ nous invite à rentrer ensemble dans la prière en tant qu'assemblée. Le deuxième mot, on va pas faire tous les mots, hein. Le deuxième mot de la prière est intéressant. Si je vous demande de qualifier Dieu, qu'est-ce que vous utiliserez comme qualificatif ? Puissant, ouais. Là, vous pouvez parler. Hein. Enfin, c'est ouvert. Hein. Puissant, ok. Amour. Créateur. Ok. Merci. Jésus-Christ, ici, donc on rentre de cette notion de communauté, de collectivité. Et Jésus-Christ, ici, utilise un mot pour qualifier Dieu. Ce mot, c'est Père. De tous les adjectifs, enfin tous les qualificatifs que vous avez pu dire, donc amour, créateur, tout-puissant, et on peut, il est juste, il est bon, il est patient, il est aimant, enfin il est beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ décide d'utiliser un seul mot, c'est Père. Et cette notion de Père-là, elle est très importante et elle est accessible déjà pour nous et seulement à travers Jésus-Christ. Il faut qu'on se rappelle qu'on peut appeler Dieu notre Père parce que Jésus-Christ a décidé de mourir sur la croix pour nous. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui n'avait pas péché, il a décidé de payer le prix pour nous, de nous racheter, de nous donner cet héritage également et que nous puissions être adoptés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui également, Christ nous invite à appeler Dieu notre Père parce que nous sommes ses enfants, nous avons été rachetés par un grand prix. Et cette notion-là également, c'est rassurant parce que nous savons que nous venons devant Dieu qui est tous les qualificatifs que nous avons pu dire, mais c'est également notre Père. Et cette notion de Père, c'est que nous savons que nous pouvons venir devant lui, nous approcher de Dieu avec plein d'assurance. Savoir que ce n'est pas nos fautes, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos compétences qui comptent, mais notre Père est là. Il est aimant, il est patient, il nous écoute dans la prière et nous avons la chance de pouvoir rentrer en relation avec lui et de pouvoir lui parler. Donc ça, c'est le deuxième point, donc notre Père. Donc notre Père, avec cette relation que nous invoquons. Et le troisième qualificatif que Jésus-Christ utilise, c'est « qui est aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux. Si je vous dis qui est-ce qui habite à l'Élysée, vous me dites qui ? Président de la République en France. Si je vous dis qui habite à la Maison Blanche, vous allez me dire. Voilà, enfin, vous savez tous où je veux en venir. Et dans la Bible, et même au jour d'aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un, quand on parle de où est-ce qu'il habite, par exemple, si je dis quelqu'un habite à Lognes, on va vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très important. Rue Maurice Ravel à Lognes, bon là, vous voulez dire, bon voilà, lui, il n'est pas trop l'écouter. Mais si quelqu'un... J'ai dit rue Maurice Ravel, hein, je n'ai pas dit autre part. Si quelqu'un dit qu'il habite à l'Élysée ou d'autre part, le lieu caractérise en fait la personne. Son identité, sa puissance, son rang. Et ici donc, nous venons ensemble, nous invoquons le nom de Dieu ensemble et nous venons voir un Père qui nous écoute. Mais rappelons-nous aussi que ce Père-là, il n'habite pas sur Terre. Il n'est pas au milieu de nous, enfin, pas présent physiquement, mais il est dans les cieux, il habite dans les cieux, il est présent dans les cieux, il règne sur toute chose, sur la terre. Et en fait, il y a vraiment cette tension qu'on peut voir entre notre Père qui est aux cieux. Bien sûr, c'est notre Père, nous pouvons venir devant lui en toute sécurité, en toute assurance, parce qu'il est là, il nous écoute, notre prière, mais il est aussi ce Dieu qui règne tout puissant dans les cieux et qui dirige la terre. Tout ce qu'il décide, tout ce qu'il veut, son plan se réalise sur cette terre. Et c'est avec cette première phrase que Jésus-Christ nous enseigne à prier. C'est avec cette première phrase qu'il rentre en relation avec notre Père, notre Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, à travers cette première phrase, Jésus-Christ est un peu en train de mettre le contexte. À qui est-ce qu'on est en train de parler ? Quand on prie, à qui est-ce qu'on est en train de parler ? On est en train de parler à un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime et un Dieu aussi qui nous appelle à vivre en communauté parce que c'est pas juste mon Dieu mais aussi, c'est aussi notre Dieu. Et du coup la question que je me pose, qu'on se pose et que l'auteur se pose, ce serait, mais d'accord, maintenant que j'ai mis un peu le panneau, le panorama, je rentre dans la présence d'un Dieu tout-puissant, mais ce Dieu tout-puissant m'aime et a décidé à travers Jésus-Christ que je puisse être son enfant et qu'on soit appelé à vivre cette communauté ensemble. Qu'est-ce que je serais appelé à vivre ou à lui dire ? Comment est-ce que je me sentirais si je me rendais compte que quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse au Père Tout-Puissant qui m'aime et qui veut qu'on vive en communauté ? On va voir donc dans un second temps ce que Jésus-Christ nous demande de dire. Quand on se place dans cette perspective, je pense qu'il y a déjà une première notion qui serait avoir cette assurance que nous rentrons en communication, nous rentrons en relation avec un Dieu tout-puissant qui maîtrise tout, qui est aux cieux. Également une humilité parce que nous ne voulons pas demander des choses mauvaises, nous ne voulons pas demander n'importe quoi aussi, parce que nous savons devant qui nous parlons. Et donc dans cette deuxième partie, donc un désir pour sa présence et sa providence, voilà ce que Jésus-Christ nous enseigne. Que ton nom soit sanctifié. Donc, une fois qu'on a introduit un petit peu la personne de Dieu, la demande de Jésus-Christ, c'est que ton nom soit sanctifié. Dans l'Ancien Testament, quand les païens ou quand les juifs se rebellaient contre Dieu et qu'ils agissaient contre la volonté de Dieu, on disait qu'ils profanaient le nom de Dieu. Et quand on est contre le nom de quelqu'un, en fait, c'est comme si on était contre sa volonté, qu'on agissait contre cette personne-là, qu'on était désobéissant envers cette personne-là. Et ici, la prière de Jésus-Christ, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est de vouloir, plus que toute autre chose, que le nom de Dieu, que la personne de Dieu, que la gloire de Dieu soit honorée. Malheureusement, je pense que moi, le premier, bien souvent, on a envie pas forcément que le nom de Dieu soit sanctifié, mais dans ma prière, peut-être que des fois, je fais « Seigneur, que mon nom soit sanctifié. Que ma personne, peut-être puisse être, cela puisse bien se passer, que je puisse vivre dans de bonnes conditions, que je puisse vivre ma vie sans trop de problèmes. » Mais ici, Jésus-Christ nous rappelle que ce n'est pas notre propre présence, ce n'est pas notre propre personne que nous devons chercher, mais c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être la première chose que nous devons demander. Ce n'est pas notre bien, ce n'est pas notre bonheur, mais c'est la présence de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et le nom de Dieu n'est pas plus sanctifié que quand Jésus-Christ est présent dans nos vies. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, quand nous avons accepté Jésus-Christ, c'est aussi un combat pour nous tous les jours de se dire que le nom de Jésus soit sanctifié dans mes vies. Que ce ne soit pas mes propres désirs, que ce ne soit pas ma propre volonté qui soit le centre de ma vie, mais que ce soit tes désirs, Seigneur. Jésus, soit à la première place de ma vie. Et ensuite, quand on voit les autres requêtes de Jésus-Christ, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est en fait une continuité de ce que Jésus-Christ demande pour nous. Nous demandons la présence de Dieu, nous demandons que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, mais nous demandons aussi que ces choses-là se réalisent dans la vie des frères et sœurs, dans la vie de la communauté, dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est un appel aussi à l'évangélisation, c'est un appel aussi à ce que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Parce que nous connaissons Christ, parce que nous savons comment il a changé nos vies, nous voulons aussi que Christ puisse venir dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas et puisse toucher également le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et ça, c'est la prière aussi que nous devons faire. Seigneur, que ton royaume vienne. Que tu puisses te manifester, non seulement dans ma vie personnelle, où je ne désire pas mon propre désir, ma propre chair, mais également dans la vie des autres. Comment est-ce que ton évangile peut venir toucher la vie des gens? Comment est-ce que ton nom peut être connu de tout le monde? Et ça, c'est un défi aussi que nous avons en tant qu'Église. Comment est-ce que nous prions aussi pour l'évangélisation? Comment est-ce que nous voulons faire en sorte que le nom de Jésus-Christ que nous professons dans nos prières soit connu aussi de tous les gens? C'est une prière qui doit être du fond de notre cœur et que nous devons aussi répéter pour que nous puissions garder à l'esprit. Seigneur, que ton royaume vienne. C'est comme je ne sais pas si vous avez déjà fait... vous voyez dans les films où vous l'avez vécu quand on est petit ou quand vous avez des enfants et qu'on est en voiture, on va en vacances et les enfants nous disent c'est quand qu'on arrive. Quelle est notre attitude par rapport au royaume de Dieu? Bien sûr, le royaume de Dieu est venu en Jésus-Christ, bien sûr, nous avons cette relation avec Christ. Mais est-ce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où nous prenons plaisir, sachant que ce monde est déchu et qu'il est appelé à disparaître, et que le vrai monde auquel nous aspirons, c'est le monde où Jésus-Christ régnera pour toujours? Est-ce que nous sommes là à dire « Ah ouais, bah en fait, ce monde, en fait, il est pas mal. Enfin, je m'y plais bien. Et j'aime bien. » Ou est-ce que nous sommes en train de dire à Dieu « Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce que tu arrives? Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume de manière définitive sur cette terre? Parce que c'est ce à quoi j'aspire, c'est ce à quoi je veux vivre. » Et cette prière-là, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est aussi un appel à désirer la présence de Dieu dans nos vies, à désirer également la présence du royaume de Dieu sur cette terre. quand est-ce que tu reviens, Seigneur ? Quand est-ce que je serai pour toujours attaché à toi ? Et qu'est-ce que je peux faire aussi ? Qu'est-ce que je peux prier pour que ces choses-là arrivent ? Comment est-ce que je peux prier pour l'évangile ? Comment est-ce que je peux agir également pour toucher les cœurs et pour que ton nom soit sanctifié ? Donc, nous avons vu donc dans la première phrase, notre Père qui es aux cieux, cette introduction de à qui nous parlons et quel état d'esprit nous devons avoir. Ensuite, nous avons vu que Jésus-Christ, une fois qu'il a introduit la personne de Dieu, la première chose que nous devons désirer, c'est la présence de Dieu, que son royaume vienne. Mais notre Dieu n'est pas juste un Dieu qui demande à ce qu'on le demande, mais c'est un Dieu aussi de bonté, un Dieu de providence. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Une fois que nous avons demandé plus que toute autre chose la présence de Dieu, parce que c'est ce qui est le plus important pour nous, et que cette présence se manifeste aussi sur la terre, nous allons voir maintenant que la providence de Dieu est aussi quelque chose que nous devons demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, je pense qu'on aime tous manger ici. Enfin, en tout cas, j'espère. Ou en tout cas, on le fait tous, ça c'est sûr. Et le repas et manger, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en tête, enfin, qu'on a bien de savoir, ah, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Ou, moi, je me souviens, j'étais en vacances il y a 3 semaines. Ouais, ça fait déjà 3 semaines. J'étais en vacances il y a 3 semaines et j'avais retrouvé mon neveu Jason. Et on m'a dit, tu vas voir, il a changé. Je fais, ah ouais. Et on me disait, oui, il aime beaucoup manger. Pendant le confinement, en fait, il a grossi. Parce qu'il mangeait beaucoup et il bougeait pas, bref. Et en fait, il était toujours là, à chaque repas, il demandait, qu'est-ce qu'on va manger ? Le repas était terminé, il fait, qu'est-ce qu'on va manger après ? Tout le temps, tout le temps. Et on faisait une activité l'après-midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Où est-ce qu'on va bientôt manger ? Et cette notion-là, en fait, et il demandait même, est-ce qu'on va manger dans 2 jours, dans 3 jours, est-ce qu'on va bien manger, etc. Est-ce qu'on va manger au restaurant ? Vous voyez, les neveux un peu spoilés, enfin un peu trop gâtés. Mais ici, dans la prière et dans la demande de providence, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'est pas là en train de demander, donne-moi aujourd'hui le pain pour aujourd'hui, pour demain et du bon pain. Mais juste le pain quotidien, juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, Jésus-Christ n'est pas là en train de nous demander, oui, n'oublie pas de demander ton pain, n'oublie pas de demander ton riz, n'oublie pas de demander tes légumes, n'oublie pas de demander ton dessert. C'est pas du tout ça, en fait, le point de la demande de prière de Jésus-Christ. C'est juste, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que nous voulons rappeler que nous devons dépendre de Dieu en toutes circonstances. Pour toute chose, même pour le pain, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui nous donne la capacité aussi de nous nourrir, de jouir d'un corps qui puisse s'alimenter, de jouir également de notre santé pour pouvoir travailler ou pour pouvoir manger, mais juste ce qu'il faut. Parce que si je tombe dans l'abondance, je serai là à dire, Seigneur, je n'ai plus besoin de toi. Je suis riche, enfin, ou je suis abondant, je gagne mon propre argent, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de dépendre de toi. Et s'il n'y en a pas assez, je serai là à dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas ? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à manger ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pitié de ton enfant ? Donc ici, la prière de Jésus-Christ, c'est donne-moi juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour aujourd'hui, pour maintenant, pour que je puisse continuellement dépendre de toi en toutes circonstances. C'est ma prière. Une fois que nous avons demandé notre pain quotidien, la deuxième chose que Jésus-Christ demande, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, les 3 choses que nous allons voir, c'est vraiment des choses quotidiennes. De la même manière que le pain est quotidien, de la même manière, cette demande de pardon est une demande quotidienne. Je pense personnellement que cette demande de pardon, c'est l'une des demandes en fait avec lesquelles je m'identifie le moins. J'ai peut-être plus l'habitude de prier pour mon repas, parce que c'est une habitude en fait, et que dès que je mange, je remercie le Seigneur. Mais j'ai beaucoup moins en fait cette habitude et cet automatisme de pouvoir prier pour mes offenses, pouvoir demander pardon à mes offenses. Et c'est quelque chose d'excessivement important parce que ça nous permet de nous remettre là où nous sommes devant notre Dieu. N'oublions pas bien sûr que nous avons une relation et une vie nouvelle en Christ, que nous sommes régénérés, nous sommes rendus justes, mais ça n'empêche pas que nous continuons à pécher quotidiennement, enfin pour moi personnellement en tout cas, et que nous avons besoin, de la même manière que j'ai besoin de manger, parce que c'est vital, c'est une question de survie, de cette même manière-là, en fait, j'ai besoin aussi de demander pardon à Dieu. Parce qu'encore une fois, si je ne demande pas pardon, c'est comme si je me disais, en fait, je suis vraiment bien, enfin, j'ai pas besoin de toi, en fait, Dieu. Tu vois, en fait, je vis ma vie et je fais mon bonhomme de chemin et je pêche pas, donc j'ai pas besoin de te demander pardon. Mais au contraire, on a besoin de se rappeler, de s'examiner quotidiennement et de demander pardon à Dieu aussi, quotidiennement, pour nous rappeler également de sa grâce. Il est un Père qui nous écoute, il est un Père qui nous pardonne, il est un Père qui nous aime. Donc le pardon également est une demande. Continue à la faire pour notre Seigneur. Dernière providence également de Dieu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est une autre demande qui fait la suite de la demande de pardon. Le pardon, c'était une demande par rapport au péché passé. Et ici, ne nous induis pas en tentation, c'est par rapport à ce qui pourrait arriver. Comment est-ce que, Seigneur, tu peux me garder? Comment est-ce que tu peux me préserver de tout ce qui va arriver? Que ce soit les tentations, que ce soit les épreuves, que ce soit les péchés, Seigneur, garde-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, tout seul dans ma vie, je ne peux rien faire, mais j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta parole pour me guider, pour ne pas tomber. Donc en fait, ces trois demandes-là, le pain, le pardon et la protection, c'est des choses que nous sommes appelés à demander quotidiennement. Non pas parce que c'est des prières automatiques, comme je pourrais le faire quand je mange, mais parce que c'est pour nous rappeler que nous devons continuellement dépendre de Dieu en toutes circonstances. Nous devons demander à Dieu de nous aider en toutes circonstances, nous avons besoin de Dieu pour vivre une vie qui lui soit agréable. Maintenant qu'on a vu l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous venons et que nous rentrons dans la présence de Dieu, que la première chose que nous devons communiquer à notre Seigneur, c'est un désir de sa présence, mais également que Dieu nous pourvoie dans toutes ces choses-là. Nous allons voir maintenant que ce sont des choses que nous demandons pour nous-mêmes, mais également pour la communauté, pour les frères et sœurs. Donc ici, vous pouvez voir dans le passage le nombre d'occurrences et qui découle vraiment de ce que j'ai dit au tout départ. C'est que la prière du Notre Père et le modèle donc de prière que Jésus-Christ nous a laissé est un modèle de prière collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis... Vous savez, moi je réfléchissais à ça, je me disais, ouais, Notre Père qui est aux cieux. En fait, quand on le prie ensemble, enfin, moi c'est comme ça que je le fais, c'est quand on le prie ensemble, par exemple, on dit à la fin, on va prier Notre Père qui est aux cieux, nanana, 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 nanana. Enfin, on rentre un peu dans une sorte de mantra, ou je sais pas, enfin, on est tous ensemble, nanana, nanana, bam. Et en fait, c'est une prière générique. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une prière générique que je fais. Et je n'ai même pas forcément la notion de moi, je n'ai même pas forcément la notion des autres, de nous. Mais c'est une prière que je fais, et peut-être même plus pour moi que pour les autres. Mais ici, quand on réfléchit, et quand on regarde, et quand on s'intéresse au texte, il y a vraiment cette notion de communauté, de vivre ensemble. Et qu'est-ce qu'on demande ensemble? On demande la présence de Dieu, comme on l'a vu. On demande la providence de Dieu, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Je vais reprendre les termes d'un prédicateur anglican, donc en UK, enfin en Angleterre, du 19e siècle, qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Très, très, très fort. Enfin, très fort. Très parlant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit « Nous sommes tous égoïstes par nature. Et notre égoïsme a le don de se coller à nous, même après notre conversion. Il y a en nous une tendance à nous préoccuper de notre âme, de nos propres luttes spirituelles, de nos propres progrès dans la foi, et à oublier les autres. Nous devons tous être vigilants et lutter contre cette tendance, particulièrement dans nos prières. Nous devons tous entraîner à développer un esprit de communauté. Nous devons nous inciter à nommer d'autres personnes que nous-mêmes devant le trône de grâce. Nous devons tenter de porter dans nos cœurs le monde entier. Les païens, les juifs, les catholiques romains, le corps des vrais chrétiens, les églises protestantes professantes, le pays dans lequel nous vivons, l'assemblée à laquelle nous appartenons, la famille à laquelle nous habitons, les amis et les parents avec qui nous sommes en lien. Nous devons prier pour chacun et pour tous. C'est là le plus haut degré de l'amour, car celui qui m'aime en prière est celui qui m'aime le mieux. Il en va de la santé de notre âme, car agir ainsi accroît notre compassion et élargit nos cœurs. C'est pour le bien de l'Église, car la prière met en mouvement tous les rouages de la propagation de l'Évangile. Ceux qui intercèdent comme Moïse sur la montagne font autant avancer la cause du Seigneur que ceux qui, comme Josué, sont au cœur de la bataille. C'est être comme Christ qui, en tant que souverain sacrificateur, porte auprès du Père le nom de ceux qui le suivent. Quel privilège d'être comme Jésus. C'est ainsi que l'on vient en aide au pasteur. Si j'avais à choisir une assemblée, je demanderais à Dieu de m'en donner une qui prie. Voilà les propos d'un prédicateur que vous connaissez ou pas, mais ce n'est pas le plus important. Et il dresse un portrait que je trouve assez fort de qui nous sommes. Nous sommes tous égoïstes par nature, à nous préoccuper de notre âme, de nos luttes spirituelles, de nos propres progrès dans la foi, et à oublier les autres. Mais lorsque nous prions, c'est là le plus haut degré de l'amour. C'est car celui qui m'aime en prière est celui qui m'aime le mieux. Il en va de la santé de notre âme, car agir ainsi accroît ma compassion et élargit mon cœur. C'est pour le bien de l'Église, car la prière met en mouvement tous les rouages de la propagation de l'Évangile. Et au final, la prière et le fait de pouvoir prier ensemble, c'est en fait une réponse au plus grand commandement de Christ. Quand quelqu'un demandait à Jésus-Christ, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» La réponse était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dans la prière du Notre Père, pour voir que nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, quand nous désirons la présence de Dieu plus qu'autre chose. Mais il y a aussi cet aspect de providence. Comment est-ce que je vais prier pour les autres ? Comment est-ce que je prie pour que mon frère ou ma sœur ait de la nourriture ? Comment est-ce que je prie pour que mon frère ou ma sœur ou toute autre personne ne tombe pas dans la tentation ? Comment est-ce que je prie pour que toute autre personne soit pardonnée, que je pardonne une autre personne ? La prière du Notre Père n'est pas... Dieu ne demande pas qu'on prie parce qu'il a besoin d'aide pour réaliser les choses. Mais Dieu demande qu'on prie parce qu'il sait qu'on a besoin d'aide pour désirer les choses que Dieu désire. Je ne prie pas parce que Dieu a besoin d'aide pour moi pour que les choses se réalisent, mais Dieu me demande de prier parce que j'ai besoin d'aide pour l'aimer et pour aimer mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle aussi à prier, pour que notre cœur puisse être changé, pour que notre âme également puisse aspirer à ce que désire Dieu. Je vais prendre une image pour la prière et surtout la prière des uns pour les autres et les uns avec les autres. Imaginez que je sois avec quelqu'un qui est malade. Cette personne-là n'a pas la possibilité ou n'est pas en capacité de faire appel au médecin. Pas possibilité de communiquer, pas possibilité de pouvoir l'appeler. Et je suis l'intermédiaire pour cette personne. Qu'est-ce que je dirais au médecin ? Est-ce que je dirais au médecin, oui, cette personne-là, elle est malade. Est-ce que tu peux la soigner, s'il te plaît ? Ou est-ce que je dirais au médecin toutes les choses dont elle souffre, tous les symptômes qu'elle souffre, pour que le médecin puisse agir de manière efficace. C'est la même chose aussi qui nous est demandé lors de la prière, et de la prière collective, et de la prière les uns pour les autres, c'est que nous puissions également nous soucier les uns des autres, pas juste je prie pour mon frère, ma sœur, mon collègue, ou quelqu'un d'autre, mais de savoir également spécifiquement comment est-ce que je peux prier. Et c'est à travers ça, et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais exercer l'amour que Dieu me demande d'agir. C'est à travers ce moment-là, quand je m'intéresse et quand j'aime mon frère et ma sœur, que je vais pouvoir prier pour cette personne-là de manière puissante auprès de Dieu. Et j'aime beaucoup l'image que J.C. Ryle utilise, il dit « C'est être comme Christ qui, en tant que souverain sacrificateur, porte auprès du Père le nom de ceux qui le suivent. » Donc, bon bref. Je voulais juste mettre le laser, mais donc cinquième ligne en partant du bas. Donc c'est être comme Christ qui, en tant que souverain sacrificateur, porte auprès du Père le nom de ceux qui le suivent. Quand nous prions pour les frères, les sœurs et pour toute autre personne, nous sommes comme Christ qui intercède auprès de Dieu pour ces gens-là. Nous prions et nous le remettons entre les mains de Dieu parce que nous croyons qu'il peut changer les choses. Parce que nous croyons qu'il est tout-puissant pour exaucer nos prières. Dernier verset. Pour qu'on puisse prier de manière collective. Je pense que c'est un verset qu'on connaît tous. Dans Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un verset qui définit et qui donne un peu l'identité de l'Église primitive. Et quand on regarde ce que nous faisons, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, bien souvent, il y a un manque dans ce que nous faisons. On peut persévérer dans l'enseignement des apôtres, on peut persévérer dans la communion, on peut persévérer dans la fraction du pain. Mais c'est plus compliqué de persévérer aussi dans la prière, ensemble. Et c'est un appel aussi que Dieu nous donne pour vivre l'Église en tant que telle, en tant que communauté, c'est qu'on puisse persévérer. Aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur à travers la lecture de tout ce que j'ai pu vivre. Et je ne veux pas être hypocrite et dire que je suis la personne qui prie tout le temps. Au contraire, je me prêche moi-même tout ce que je suis en train de dire, et le fait d'avoir lu tout ça me donne aussi une certaine conviction et m'apporte aussi une certaine assurance dans la manière de prier. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de prier en église. C'est difficile de prier ensemble dans un lieu. C'est difficile de prier pour des frères et sœurs. Comme on l'a dit, on est pécheurs, des fois on est obnubilé par nos propres désirs, nos propres problèmes, moi le premier. Mais ici, dans Actes, on est appelé aussi à persévérer. Même si c'est dur, même si ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie, comme Christ dans le jardin du Gethsémané disait, « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que tu me demandes de vivre? Aide-moi à vivre cette persévérance aussi dans la prière. » Je lisais cette semaine le livre d'Hébreux. Et donc en Hébreux 11, il y a ce fameux passage où on décrit la foi. Donc à la fois l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et juste après, il y a un peu la description de tous les héros de la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice de grande valeur à Dieu. C'est par la foi que Noé a obéi à Dieu et qu'il a construit une arche quand le déluge arriva. C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays et est sorti pour aller vers la terre promise de Dieu. C'est par la foi que Sarah a attendu pour avoir l'enfant promis. Et moi, ma prière aussi, aujourd'hui, c'est que c'est par la foi aussi que nous, en tant qu'Église de Saint-Maur, on va pouvoir vivre aussi une vie de prière en communauté. C'est par la foi aussi que nous allons vouloir persévérer dans nos vies de prière personnelles, dans nos vies de prière collectives, pour que Dieu puisse agir. Comme le disait Jesse Ryle, si je pouvais demander quelque chose à une église, c'était une église qui prie, parce que la prière change les cœurs. La prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu de changer quelque chose, changer ma vie, changer ma situation, changer mes problèmes, changer mes soucis, mais avant tout, c'est aussi Dieu qui change mon cœur. Quand je prie, quand je me mets dans la présence de Dieu, Dieu veut changer mon cœur. Donc, je vous avais montré tout à l'heure une photo quand j'avais tapé prière et prière collective. Du coup, je me suis dit, attends, je vais pas rester sur cette photo de prière collective. Et j'ai retapé d'autres mots, j'ai tapé prière collective chrétienne. C'est la photo de droite, hein, enfin de votre droite. Voilà la photo de droite que j'ai galéré pour trouver. Et comme vous l'avez vu, la slide était prête déjà depuis très longtemps. Puisque j'ai rajouté la photo à gauche, qui est la photo d'hier soir. Vous avez pu vous réunir ici et passer un moment de prière ensemble. Et voilà aussi l'image que je voudrais qu'on ait et la vision qu'on ait aussi pour notre Église. On l'a vu, trouver une image de la prière collective, j'ai galéré entre guillemets. Mais je crois et j'ai la foi et j'ai la conviction aussi que cette image, on n'aura pas besoin de la chercher. Parce que cette image, on pourra la voir aussi dans notre Église, qu'on pourra prier les uns pour les autres, prier les uns avec les autres. Prier notre Père, Tout-Puissant, rassurant, pour qu'il vienne par sa présence, pour qu'il nous donne également ce dont nous avons besoin en toutes circonstances et pour que nous puissions apprendre les uns les autres à nous aimer pour la gloire de notre Seigneur. Je vous invite à fermer les yeux. Notre Père, notre Dieu, on veut s'agenouiller devant toi parce que plus on se rapproche de toi, plus on se rend compte qu'on a besoin de toi. Plus on se rapproche de toi, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas beaucoup de choses, mais que nous avons besoin de plus te connaître. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous as laissé un modèle de prière. Ton Fils Jésus-Christ nous enseigne, en toutes circonstances, à venir ensemble, à invoquer le nom du Seigneur, et à pouvoir nous prosterner devant toi, parce que tu es ce Dieu, ce Père, mais également que tu règnes en toutes circonstances. Et pardon Seigneur, parce que des fois nous ne désirons pas toujours ta présence, pardon parce que nous voulons des fois que notre nom soit sanctifié, mais Seigneur tu nous pardonnes, Seigneur tu nous aimes et tu nous demandes de dépendre de toi en toutes circonstances. Et Seigneur, toutes ces choses-là, Seigneur, tu nous les demandes personnellement, mais aussi à les vivre en tant qu'Église. Et c'est ma prière aujourd'hui, et c'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre une vie de prière ensemble, à prier les uns avec les autres et les uns pour les autres, Seigneur. Parce que c'est la marque d'amour la plus grande, et parce que c'est comme ça aussi que tu changes nos cœurs. quand je prie pour mon frère ou pour ma sœur, c'est là que tu changes mon cœur, que j'arrête de penser à moi, mais que je pense aux autres et à toi. Alors Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, on sait que toi tu es fidèle, tu ne changes pas, mais tu veux nous changer continuellement, Seigneur, pour que nous ressemblions encore plus à Christ. Alors aide-nous, Seigneur, encore une fois, à ce que ta parole puisse nous convaincre, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, encore une fois, fasse le tri et puisse nous donner des convictions, Seigneur, comment vivre une vie de prière en communauté. Comment est-ce que nous pouvons intercéder les uns pour les autres, Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté au sein de ton Église. Te prions toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.